Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour, il y a quelques semaines, nous invitions au micro d'un jour dans l'histoire l'historien Bruno Cabanne, prix d'histoire de l'Académie des sciences morales et politiques. Dans son livre sur les lendemains de la Première Guerre mondiale, un livre intitulé « La victoire endeuillée », Bruno Cabanne expliquait que pour 5 millions de soldats français, la guerre ne s'était pas terminée le 11 novembre 1918. À l'occasion de cette émission, nous mettions en avant le fait que l'histoire ou l'historiographie avait tendance à enfermer les événements entre deux dates, ceci assez logiquement, certes, mais parfois à tort. Eh bien, ce qui est vrai de la Première Guerre mondiale l'est aussi pour le régime de Vichy, engoncé, si je puis dire, entre le 10 juillet 1940, date de son avènement, et le mois d'août 1944, fin du régime de Pétain. Entre ces deux dates, le régime vichiste apparaît comme monolithique, comme une sorte d'accident de notre histoire. Pourtant, considérer l'histoire de Vichy comme homogène, tant du point de vue de ses inspirations idéologiques que dans le temps, est inexact. C'est tout d'abord oublier qu'il exista deux Vichy, celui des années 40-42, puis 42-44, dominé par la personnalité de Laval. C'est aussi oublier qu'après 1944, subsiste ce qu'on appellera un néo-vichisme qui se distinguera notamment lors des élections législatives de 1951. Alors, que furent ces deux Vichy? Quelle nature prit ce mouvement d'après-guerre qui se cristallisa autour de la défense du maréchal Pétain? Autant de questions auxquelles Jérôme Cotillon, notre invité, va répondre aujourd'hui. Jérôme Cotillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, chargé de cours à la Sorbonne Nouvelle, et vous avez publié en 2003 chez Armand Collin un ouvrage majeur qui s'intitule « Ce qu'il reste de Vichy ». C'est un ouvrage qui a aussi été couronné par l'Académie des sciences morales et politiques cette année. Je dis ouvrage majeur car votre démarche n'est ni une démarche hagiographique, ni une démarche visant à condamner irrémédiablement le régime. Non, vous faites un travail d'analyse, un travail d'historien, un travail précis, très documenté sur un sujet certes controversé, mais si vous me le permettez, pour lequel vous mettez beaucoup de pendules à l'heure. Alors, et ce sera ma première question, Jérôme Cotillon, est-ce que tout un travail d'histoire est à faire en face d'une mémoire souvent, que l'on peut dire, sélective ?
Eh bien, un travail d'histoire, il y a toujours à faire sur des sujets aussi sensibles, naturellement. L'idée de mémoire que vous évoquez le rappelle, nous allons y revenir. Je n'ai pas agi naturellement, et pourquoi l'aurais-je fait, de façon hagiographique. Je n'ai pas fait non plus de façon critique. Je me suis forcé de répondre à la première exigence de l'historien, c'est-à-dire à faire un travail positiviste. Alors, devoir de mémoire, c'est une expression qu'on entend extrêmement souvent, qu'on n'entend pas du reste aujourd'hui d'ailleurs que sur le régime de Vichy, que l'entend-on désormais sur la guerre d'Algérie et d'autres sujets encore. Alors il y a un droit de mémoire, naturellement, pourquoi n'y en aurait-il pas? Mais je crois qu'il y a un droit de l'historien et un devoir de l'historien qui consiste à, de façon positiviste, comme je vous le disais, remettre en place les événements. Et de ce point de vue, il est frappant de constater que tout un pan historiographique ne s'est pas encore acquitté de cette investigation, de cette recherche sur lesquelles je me suis penché, à savoir, y a-t-il, et c'est là la grande différence entre l'histoire et les mémoires, des phénomènes de continuité ou de rupture. Ces phénomènes de continuité ont, à mon sens, plus droit de cité du côté de l'histoire, là où la rupture a plus droit de cité du côté de la mémoire. C'est un point sur lequel nous pourrons revenir si vous le voulez, mais devoir d'historien il y a à mener, je suis tout à fait prêt à y répondre un peu plus avant.
Alors, en 1994, Éric Conant et Henri Rousseau ont publié un ouvrage qui s'intitule « Vichy, un passé qui ne passe pas », dans lequel ils expliquaient les sentiments de la population française à l'égard du régime du maréchal Pétain. Votre livre s'inscrit dans la filiation de cette œuvre de Rousseau et Conant ?
Elle s'y inscrit naturellement, dans la mesure où ce sont un peu les mêmes symptômes, pour reprendre ou paraphraser Henri Rousseau, que nous auscultons. Mais l'exemple même que vous donnez, celui de Rousseau et de Conant, enfin de Rousseau seul d'abord, puisqu'il a publié au début des années 80 un ouvrage tout à fait majeur et fondamental, Le syndrome de Vichy. Et qui a connu une suite en 94, c'est-à-dire un peu plus de 10 ans plus tard, avec le concours précieux du reste d'Éric Conant. Voilà bien la façon dont on peut distinguer nos deux approches. Alors, continuité, j'y reviendrai, mais d'abord, point de de distinction entre nous. Henri Rousseau travaille sur l'histoire de la mémoire, sans mauvais jeu de mots. Et l'approche est plus culturelle, là où j'essaierai de démontrer que la mienne est plus politique. En termes historiques. Henri Rousseau essaie de démontrer comment le souvenir, terme à bien distinguer de celui de mémoire, qui est un phénomène plus construit, le souvenir diffus, disparate, d'une période par ailleurs occultée. Et son travail rappelle que la période d'après-guerre jusqu'à aujourd'hui s'est en gros divisée en trois phases. Celle de l'observation dans un premier temps extrêmement ponctuelle du régime de Vichy sur des points précis, celui de la haute trahison, par exemple, puis période à mesure qu'une mémoire juive, notamment, se constituait du refoulement, et enfin à mesure que cette mémoire juive se structurait et revendiquait à juste titre, du reste, la prise en considération de l'horreur qui lui a été faite dans le cadre général de la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre du régime de Vichy, par les différents statuts, en quoi cette mémoire juive repassait à l'offensive et devenait, comment dirais-je, un vecteur salutaire pour la mémoire du reste du régime de Vichy. Donc, il décompose la période d'après-guerre en articulant les césures qu'il établit à la demande sociale de l'opinion, à la demande sociale et culturelle. Et c'est cette histoire-là qu'il fait. C'est ce qu'il raconte brillamment, du reste, et de façon exhaustive. Mon approche n'est pas du tout la même. Même si, je le répète une fois encore, nos objets sont a priori identiques. La mienne est en gros que le régime de Vichy, avant de se signaler par ses symptômes, s'est en réalité caractérisé par les hommes qui ont porté ce régime, qui ont fait vivre ce régime, qui ont pu chuter ou non, nous le verrons peut-être, avec ce régime, mais aussi par les idées que ce régime a voulu incarner, a incarné parfois inconsciemment ou malgré lui, ou de façon tout à fait consciente et de façon revendiquée. Et de ce point de vue, je reviens à mes affaires de continuité et de rupture. Ce n'est pas parce qu'un régime institutionnellement s'affaisse que les hommes et les idées qu'ils vont porter ou incarner disparaissent d'autant. Donc je crois que il serait absolument absurde, je le dis tout de suite, de considérer qu'il n'y a que des éléments de continuité. Ce serait même le contraire exactement de ce que je veux dire. Néanmoins, tout n'est pas dans la rupture, c'est-à-dire dans le gommage de ce régime. Et c'est en quoi et pourquoi un certain nombre d'hommes ont voulu, par fidélité, par conviction, alors par fidélité à la personne seule du maréchal Pétain, par parfois révolte vis-à-vis du sort que d'aucuns ont cru injuste de lui voir fait, par conviction, ceux qui croyaient en ce régime de Vichy tel qu'il a pu se caractériser, en tout cas dans ses premiers mois, dans la mise en place de sa première législation, de ses premières législations, eh bien ces hommes ont pu, y compris par conviction, vouloir perpétuer, réincarner sous d'autres formes, les idéaux, entre guillemets, auxquels ils semblaient croire. Et j'ajoute que certains n'ont pas, et ce sera un autre élément de distinction de mon point de vue, certains n'ont pas cru jouer le jeu de l'anti-républicanisme retrouvé depuis 1944, en se marginalisant politiquement, en jouant une sorte de marginalité politique, mais au contraire, ont accepté de jouer le jeu républicain pour amener au cœur, ou le croyait-il du moins, à nouveau, ce en quoi il croyait. Donc la démarche que j'adopte est bien celle de ces continuités, celle en somme de la façon dont, au-delà des ruptures institutionnelles, la conviction, puissant vecteur d'action, n'est-ce pas, a pu se nourrir bien au-delà de la période voulue. Approche politique, par conséquent, là où celle de Rousseau ne l'est pas nécessairement, approche sans doute moins culturelle que celle de Rousseau, pour ma part, même si le lieu de la culture au sens large, c'est-à-dire aussi bien au sens académique du terme qu'au sens littéraire, au sens journalistique, au sens culturel même étendu à des lieux de sociabilité, à des manifestations de tous ordres, cette dimension-là de la postérité culturelle, qui à certains égards s'assimile à un folklore et s'apparente de plus en plus à mesure que la défense du vichisme devient surannée, l'approche culturelle ici, effectivement, on peut la retrouver, mais je le maintiens, c'est moins la mémoire des syndromes de Vichy qui m'intéresse qu'éventuellement l'histoire, comme quoi tout n'est pas antinomique entre nous, l'histoire de la mémoire que certains ont voulu défendre de Vichy. Ce serait plutôt cela, mon approche.
Alors, vous montrez certes cette continuité, mais alors, vous ne considérez pas le régime
de Vichy, c'est un des piliers de votre livre, comme un régime unique. Je le disais en introduction. En revanche, il y a une rupture en 1942. Quel est ce premier Vichy?
Alors, si vous me permettez de faire de façon liminaire un point de terminologie, j'aimerais tout d'abord, je retire de l'eau à mon moulin, qu'on arrête de parler du régime de Vichy. Je trouve que l'expression « État français » est autrement plus appropriée. D'abord, ce terme est dans les textes eux-mêmes. En second lieu, trop souvent, un certain nombre d'historiens, et ça, si Henri Rousseau commet un troisième tome, il pourra éventuellement gloser sur l'emploi du terme vichysois, qui sont, je rappelle, les habitants de Vichy, et non pas les partisans du régime de Vichy. Donc déjà, parlons éventuellement de régime vichyste, et non plus de régime de Vichy, et à défaut, de régime de l'État français. Mais enfin, va pour régime de Vichy, je l'ai moi-même abondamment employé, par conséquent, je vais me parler d'un premier Vichy. L'idée de premier Vichy est aujourd'hui largement admise par la plupart des historiens. René Raymond, en 1972, sur le premier grand colloque, lors du premier grand colloque organisé sur la question de l'État français, posait, en hypothèse et en thèse, par conséquent, que le régime de Vichy n'avait pas été, dans ses inspirations, dans ses manifestations idéologiques, puis dans ses réalisations politiques ou pratiques, n'avait pas été unicitaire, si j'ose dire, unique. Il y a un phénomène de dégradation du régime de Vichy qui fait qu'en 1942, nous passons assurément à autre chose que ce qui s'est produit de 1940 à 1942. J'y viens un peu plus avant. En 1940 et jusqu'en 1941 puis 42, mais je préfère parler d'un premier Vichy allant de 40 à 42, comme le fait par ailleurs et par la suite Denis Péchanski ou Jean-Paul Cointet, éminents historiens de Vichy. Nous avons là un régime, un pouvoir, de fait, dira le général de Gaulle, mais qui existe dans les faits entre 40 et 42, qui conserve une réelle autonomie de décision. L'initiative de la loi, du décret, en tout cas de la décision politique, reste du côté du gouvernement découlant du vote du 10 juillet. À partir de 1942, on assiste à tous égards, à tout moment, à une remise en cause de ce caractère autochtone de la décision. Les Allemands, ensuite, acceptent ou non, imposent, bien plus volontiers, diktat, en tout cas leur volonté politique, au détriment de ce qui peut rester de la volonté du pouvoir à Vichy. Donc, premier élément de rupture. Deuxième élément de rupture, qui corrobore, complète et même anticipe d'une certaine façon le premier, c'est évidemment l'invasion de la zone non occupée. Le royaume de Vichy, si j'ose dire, étendait ses frontières essentiellement jusqu'aux limites de la ligne de démarcation, limite sud de la ligne de démarcation. Dès lors que celle-ci est abolie, et non pas dans le sens que Vichy aurait pu imaginer, c'est-à-dire la récupération d'une souveraineté de façade sur la totalité du territoire, et c'est bien l'inverse qui se produit, la validation de la légitimité, enfin de l'effectivité du pouvoir à Vichy n'est pas faite. Troisième élément de rupture qui me conduit à distinguer le premier du second Vichy, c'est assurément le changement des équipes dirigeantes. Nous ne sommes plus en présence du même personnel politique, et dans la mesure où il conserve un pouvoir encore après 1942, il ne puise plus aux mêmes sources idéologiques. Et là, c'est pour ça qu'il y a un premier Vichy de la décision, de la pseudo-souveraineté, mais il y a aussi un premier Vichy en termes idéologiques, qui s'oppose au second, sur lequel je peux revenir. Tu vois.
Alors, quelles sont justement ces sources idéologiques? Nous allons le voir après une première pause. Nous verrons qu'elles sont bien multiples. À tout de suite.
Canal Académie.
Chaque semaine, l'Académie des sciences morales et politiques ouvre ses portes à un conférencier. Cette année, l'Académie se penche sur la construction européenne, les frontières de l'Europe d'un point de vue historique, l'Europe vue du monde arabo-musulman, l'Europe médiévale, l'Europe et les femmes. Radio-Canal Académie vous propose de découvrir les grands sujets traités en séance. Plusieurs fois par jour, retrouvez l'intégralité des séances de l'Académie des sciences morales et politiques en écoutant Radio-Canal Académie.
On retrouve Christophe Dickès.
Nous reprenons le cours de notre émission. Un jour dans l'histoire reçoit Jérôme Cotillon, auteur du livre « Ce qu'il reste de Vichy » paru l'an dernier chez Armand Collin. Alors Jérôme Cotillon, nous sommes bien d'accord, il y a bien deux Vichy, un Vichy 1940-1942, un autre Vichy 1942-1944. Attardons-nous, si vous le voulez bien, sur le premier Vichy. Quelle est sa nature idéologique? Vous la présentez vraiment, j'allais dire, comme plurielle, si vous me permettez cette expression.
Oui, pluriel, si vous le voulez, va pour pluriel, en tout cas divers. Ce premier Vichy est assurément celui de la Révolution nationale.
Donc la pensée contre-révolutionnaire?
La pensée contre-révolutionnaire, mais au sens où l'entend Joseph de Maistre. La contre-révolution, ce n'est pas une révolution contraire, c'est le contraire d'une révolution. Déjà un premier élément d'identification idéologique du régime de Vichy. J'ajoute que les hommes qui se retrouvent aux commandes, si j'ose dire, sur les bords de l'Allier dès juillet 40, ne sont pas des vichistes de génération spontanée. Ils ne viennent pas pétainistes comme Saint-Paul tombant son cheval. Non, il y a toute une maturation idéologique qui m'invite du reste à insister d'une part sur le caractère hétéroclite de la pensée doctrinale, des pensées doctrinales ayant cours à Vichy, et sur la multiplicité également des courants politiques ou idéologiques représentés à Vichy. Alors, si l'on veut parler de la Révolution nationale, la qualifier idéologiquement, je vais me permettre de faire une citation très brève, extraite des mémoires d'Henri Dumoulin de Labarthète, qui a été le premier et très influent directeur de cabinet du maréchal Pétain à Vichy. Il écrit dans ses souvenirs, le temps des illusions, à propos de la Révolution nationale, qu'il y avait du Joseph de Maistre, du Leplay, du Taine, du Tourville, du Bourget, du Latour du Pin, du Maurras, du Salazar, peut-être même du Barrès. Vous voyez à quel point les archives le confirment, les influences idéologiques, y compris pour le salazarisme, comme expérience concrète d'un régime voulu, comme quoi cette diversité idéologique se fait jour. Elle vient en écho de la diversité des familles politiques ou des courants de pensée représentés à Vichy. Pour ma part, j'en ai décelé 8.
On est vraiment surpris par cette diversité de soutien qui va au fond de l'extrême droite à l'extrême gauche parfois.
Alors comme le disait, va pour la formule d'Azéma, Vichy c'est toutes les droites et quelques gauches. Alors toutes les droites, au seuil des années 40, c'est en gros les maurrassiens et les catholiques qui sont aux commandes dans les tout premiers mois de Vichy. Il ne faut pas ne faire de Vichy comme certains l'ont fait, après s'être parfois amendé comme Paxton, ne faire de Vichy qu'un régime maurrassien. On y décèle des maurrassiens et des catholiques. On y décèle, en grand nombre également, mais à un moment parfois plus tardif, les droites nationales et ligueuses, les droites libérales et conservatrices, celles qui siégeaient d'abondance au Parlement, à la Chambre des députés et au Sénat avant la rupture de 1940. On y décèle quelques socialistes, un nombre certain de radicaux, un nombre extrêmement certain de néo-socialistes et des syndicalistes acquis à l'idée de corporatisme, nous y reviendrons peut-être, et des technocrates et non-conformistes qui, eux, étaient plutôt absents du champ politique institutionnel avant-guerre, mais n'en appartenaient pas moins à la scène politique, à la scène des idées. Alors, je peux donner quelques noms, si vous le souhaitez.
Oui, peut-être le plus intéressant, sont ceux qu'on attend le moins, c'est les libéraux, les conservateurs et ces fameux technocrates et autres techniciens de la politique ou bien du monde scientifique.
Alors, rien que de très normal de trouver à Vichy, étant donné ce que chacun en pense, des maurrassiens et des ligueurs. Les libéraux, en effet, ou les conservateurs, c'est-à-dire des gens acquis jusqu'à 1940 à l'institution parlementaire, tertio républicain, si j'ose dire dans l'âme, parfois partisans d'une république peut-être plus musclée, ou encore d'un rééquilibrage des pouvoirs au profit de l'exécutif, se retrouvent à Vichy. Alors quelques noms qu'il convient de signaler, Henri Moisset, l'intellectuel Henri Moisset, grand penseur du libéralisme, et extrêmement inspiré par la pensée tocquevillienne, ce qui est également le cas de Joseph Barthélémy, éminent professeur de droit à la faculté de Paris, de Lucien Romier, le grand intellectuel et essayiste et chroniqueur au Figaro, sont autant d'hommes qui acceptent non seulement de participer au régime de Vichy, mais qui vont tenter de contribuer à, au maquillage institutionnel, à l'élaboration d'une constitution, comme quoi la pensée libérale et la pensée juridique se retrouvent ici pour faire du régime de Vichy un régime qu'il croit durable. C'est également, sur un autre plan, le cas des technocrates ou des non-conformistes.
Est-ce que sur ces libéraux, pour y rester un instant, il y a une sensation de reniement par rapport à leurs idées d'avant-guerre ?
Pas nécessairement. Il y a reniement... reniement n'est pas le mot. Il y a sans doute déception vis-à-vis de la Troisième République qui, dans sa forme institutionnelle et dans l'exercice du pouvoir, n'a pas su empêcher la défaite et donc n'a pas répondu militairement et politiquement à l'agression allemande. Dans ces conditions, c'est un régime lui-même, et les libéraux ne remettront jamais en cause le procès de Riom, c'est-à-dire le procès mettant à l'index ou tâchant de désigner les coupables de 1940. Donc de ce point de vue, c'est plutôt à leurs yeux la République qui s'est reniée elle-même, ou qui a renié ses idéaux de défense de la patrie, que même se reniant vis-à-vis de la République. J'ajoute que l'institution parlementaire ne disparaît pas totalement de leur esprit, puisque les libéraux seront Pierre-Étienne Flandin le premier, les plus fervents partisans de la création d'un Conseil national, embryon fantoche, comme l'a très bien démontré Michel Cointet dans sa thèse, embryon plus ou moins fantoche, en tout cas inefficace dans les faits, de parlement, de rouage paraparlementaire, dirais-je, entre un chef aux pouvoirs élargis et une opinion publique, si tant est que le terme d'opinion vaille dans cette affaire, complètement déstructurée en recherche de pouvoir. De ce point de vue, les libéraux n'ont pas, en tout cas jusqu'en 41 inclus, le sentiment de remettre en cause leurs idéaux.
Mais cela, on doit être bien clair là-dessus, ne suppose pas la collaboration. Par exemple, vous citez Lucien Romier, qui est partisan de la poursuite, des poursuites contre les dirigeants de la Troisième République, mais qui par ailleurs va désapprouver la collaboration.
Mais Lucien Romier et beaucoup d'autres, le principe de la collaboration est admis comme ayant été adopté à Montoire, bien sûr. Mais il ne faut pas se tromper sur les termes. C'est bien le collaborationnisme, c'est-à-dire ce qui excède une collaboration, j'allais dire presque obligatoire, entre un vainqueur et un vaincu, et le zèle que d'aucuns mettront par la suite à donner plus à l'Allemagne que ce qu'elle ne réclame, et même à approuver la nature de l'entreprise allemande à l'échelle européenne, dans le cas de Laval, à l'échelle idéologique et institutionnelle, comme sera le cas des plus grands collaborationnistes, Doriot, Déa, Bergerie, etc. Non, de cela, les libéraux ou les conservateurs ne veulent pas entendre. Et de toute façon, je tiens à vous rappeler que vous parliez de Bruno Cabanne tout à l'heure, entre la guerre de 70 et celle de 14, plus de 45 ans, voire 50 ans, séparent les combattants des deux guerres. Donc il y a un phénomène plus que doublement générationnel. Entre 19 et 39, il n'y a que 20 ans. Donc l'Allemand reste pour certains, malgré tout, l'ennemi. En tout cas, la guerre avec l'Allemagne reste très présente dans les souvenirs de la plupart d'entre eux.
Est-ce que, de fait, on peut dire que ce premier Vichy, une des grandes caractéristiques de ce premier Vichy, est un caractère anti-allemand et même parfois germanophobe ?
Il y a une germanophobie certaine dans les milieux du premier Vichy. La germanophilie ne se fera... Enfin, il faut bien encore la distinguer, la germanophilie du pronazisme, deux choses extrêmement distinctes. Le voyage d'automne des écrivains qu'on a ensuite qualifiés de collaborationnistes est pour certains un hommage à l'Allemagne littéraire, si j'ose dire. Là où le collaborationnisme d'un Déa, d'un Doriot, je disais d'un Bergerie, cette dérive fasciste en quelque sorte, est beaucoup plus stigmatisée par une dimension authentiquement idéologique.
plus original, ce qui m'a surpris à vous lire, c'est cette gauche, 71% de la SFIO qui soutient le maréchal Pétain.
Alors, entendons-nous, les parlementaires,
bien sûr, oui.
Socialistes, votent présents en tout cas, parce que entre ceux qui n'ont pas pu se rendre au casino de Vichy le 10 juillet, ou ceux qui étaient sur le Massilia, beaucoup étaient socialistes, 71% des parlementaires présents votent les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, ce qui ne préjuge pas de l'usage qu'en fera Pétain au 10 juillet 40. Hein. Pour le reste, il y a un certain nombre de socialistes, pour la plupart polphoristes, c'est-à-dire qui étaient partisans de ce qu'on appelle aujourd'hui le premier secrétaire du Parti Socialiste, se rallient au maréchal Pétain et parfois vont même accepter d'appartenir aux institutions mises en œuvre par le maréchal Pétain, le Conseil National. Je pense à Alexandre Rosy, à Georges Barthélémy, à Lucien Dubosc, qui était député du Gers, etc. Donc, il y a des débauchages, si j'ose dire, individuels, mais qui ne sont pas simplement des débauchages d'opportunités. Ce ne sont pas là des opportunistes, dirais-je. C'est parfois des partisans d'un socialisme plus musclé, plus national, j'allais dire. En tout cas, ce sont souvent les adversaires de la ligne établie par Blum, qui n'était pas si inexistant que cela en 36, 37, 38, qui se retrouve à Vichy. Mmh.
Et l'extrême gauche suit, dans le temps, elle va soit après se lancer dans la résistance, soit au contraire passer complètement à une politique de collaboration.
L'extrême gauche est sans doute, enfin le terme serait à redéfinir parce qu'il est un peu adventiste, il est un peu anachronique, appliqué à la période des années 40, mais mettons que les néo-socialistes, les communistes ayant suivi Doriot vont d'abord soutenir Vichy, puis se séparer de Vichy, dont la politique leur paraîtra trop conservatrice, trop rétrograde, j'allais dire. Ceux-là joueront la carte de l'Allemagne, en tout cas d'une idéologie plus crypto-fasciste. Mmh. C'est le cas, je le disais, d'un Bergerie, d'un Doriot, d'un Déa, pour reprendre les trois représentants des tendances contestataires radicales, socialistes et communistes. Mais c'est le cas également de gens comme Deschizeaux, qui était député de l'Indre, Adrien Marquet, qui était ou Antoine Carrel, respectivement député et maire de Bordeaux, de Paul Montagnon et de beaucoup d'autres, bien entendu. Ceux-là évolueront, Deschizeaux mis à part, vers une, à tout le moins, une neutralité qui n'était pas nécessairement malveillante envers l'occupant.
Alors, dès 1940, vous qualifiez certaines attitudes politiques des gens de cette époque comme étant des maréchalots résistants. C'est ce que nous verrons, si vous le voulez bien, Jérôme Cotillon, après une deuxième pause.
Canal Académie.
Canal
Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Un jour dans l'histoire reçoit Jérôme Cotillon, historien qui a reçu cette année un prix d'histoire de l'Académie des sciences morales et politiques. Il a écrit le livre « Ce qu'il reste de Vichy » paru aux éditions Armand Collin. Alors Jérôme Cotillon, il y a un élément, un néologisme que vous apportez dans ce livre, c'est le terme de maréchalo-résistance. C'est-à-dire, on a tendance, on aurait tendance, on demande aux quidam dans la rue si on peut associer l'idée du maréchalisme et l'idée de résistance, il les opposera. Vous, vous les unifiez.
Bien, j'ai d'abord quelques scrupules à user d'un néologisme dans cette maison. J'espère par avance recueillir l'indulgence de Madame le secrétaire perpétuel. Cela étant dit, parfois il faut forcer un peu les mots pour essayer de décrire plus précisément une situation qui jusqu'à présent ne trouvait pas de traduction précise. Maréchalo-résistance, c'est avant tout, et c'est pour ça que j'ai adjoint ces deux mots dans l'ordre que vous entendez, pour distinguer l'idée que je vais vous développer de la vichisto-résistance développée par Azéma. La vichisto-résistance, c'est avoir appartenu au régime de Vichy, mais ne pas dédaigner de façon non contradictoire lutter contre l'occupant.
Dans cette perspective anti-allemande dont on
parlait
tout à l'heure.
Dans cette perspective anti-allemande, oui, évoquée précédemment. Alors la maréchalo-résistance, c'est assurément, pour certains, soutenir Pétain et sa politique, mais combattre les Allemands, dès lors que leur tutelle sur l'indépendance voulue, supposée, nationale, dès lors que cette indépendance était remise en cause. Mais c'est aussi une catégorie intermédiaire qui n'est pas la moins nombreuse, rompre avec la politique de Vichy, combattre par conséquent cette politique et les Allemands, mais garder une fidélité quasi affective envers la personne du maréchal Pétain. Et si j'insiste aussi sur cette idée, c'est qu'après-guerre, le combat néo-vichy sera pour beaucoup accompagné, le martyr du maréchal Pétain en tant que tel, comme personne à forte dimension affective, mais aussi, noué avec le calvaire, le martyr de ce maréchal, et condamner le système qui lui a infligé cette si lourde de sanctions. Alors la maréchalo-résistance, dans les faits, ça peut être continuer de soutenir la politique de Vichy, rompre avec les Allemands, mais aussi conserver pour le maréchal Pétain une sorte d'affection filiale, mais ne plus suivre les orientations de son gouvernement, la personne du maréchal étant souvent distinguée de la politique menée par Laval après 1942, et de toute façon combattre les Allemands. Alors cette maréchalo-résistance, elle s'est manifestée en différents lieux, dans différents rouages, à différents moments, en tout cas toujours après 1942, c'est ce que j'ai appelé le premier après-Vichy des futurs néo-vichistes, c'est une sorte de résistance dans la fidélité, en quelque sorte, ce qui n'est pas contradictoire. La première de cette maréchale-résistance se voit dans les rangs de l'armée, dans les rangs notamment de l'ORA, de l'Organisation de la Résistance de l'Armée. Se voit aussi chez d'autres militaires, tels le colonel Groussard, qui, à travers le deuxième bureau, pour le compte de l'Intelligence Service, trahira pas les intérêts de Vichy, mais n'en conservera pas moins une réelle sympathie pour la personne du maréchal Pétain. C'est également le cas de Loustonot Lacaux, à la tête du réseau Navarre, qui a été certes extrêmement maréchaliste dans les débuts, mais fonde son propre réseau de résistance, ce qui n'empêchera pas par la suite de venir témoigner en faveur de Pétain lors de son procès. Les militaires, certes, c'est aussi des lieux. L'Afrique du Nord, la FN, a été, l'Algérie en particulier, le lieu de cette expérimentation à la fois d'une fidélité maintenue à Vichy ou au maréchal Pétain, mais aussi de la certitude de la nécessité de voir à un moment ou à un autre rentrer à nouveau en guerre contre l'Allemagne.
Oui,
les personnes de Weygand, d'Arlan ou de Giraud, par la suite, l'attestent très nettement.
Vous dites que ce mouvement, l'objectif est de réactiver en sous-main une armée excédant de beaucoup les effectifs autorisés par l'armistice. Ça passe par l'armée, ça passe aussi, ce que j'ai appris, par les chantiers de jeunesse.
Oui. Il faut aller chercher les hommes là où ils sont. Les chantiers de jeunesse ont brassé plusieurs dizaines de milliers, sinon quelques petites centaines de milliers de jeunes hommes qui acceptent tant, si tant est qu'ils eussent le choix, acceptant de collaborer, sans mauvais jeu de mots, à l'entreprise de régénération nationale voulue par Vichy, donc adhérent, en tout cas en façade, à la nouvelle ligne, si vous voulez, voulue par Vichy, celle, pour faire vite, pour schématiser, d'un corps sain dans un esprit sain, ainsi de suite, un côté un peu boy scout derrière tout ça, les chantiers de jeunesse, naturellement, mais aussi les anciens combattants et anciens prisonniers, qui recevaient, vous savez, des colis avec la photo de Pétain, et pour beaucoup, restaient fidèles au chef de Verdun, et à ses orientations.
Est-ce que cette orientation militaire, cette volonté de résistance, fait partie des idées, des opinions politiques du régime vichyste?
Vous savez, Vichy, c'est un régime militariste sans armée, pour faire vite. Ou en tout cas, c'est un régime paramilitaire à certains égards. Un défilé de la Légion française des combattants est un peu, si vous voulez, un simulacre de démonstration militaire. C'est aussi un rouage voulu comme étant l'intermédiaire, la courroie de transmission entre Vichy et son opinion, j'y reviens. Mais ce sont dans ces viviers-là que Vichy, qui aspire évidemment, parce que ce sont là l'une des dimensions de la souveraineté nationale, très rapidement à battre monnaie, si j'ose dire, et à lever l'épée, Vichy cherche à constituer autour de lui, dans la mesure du possible, dans un premier temps, ça n'en aura que les semblants, mais enfin une apparence de souveraineté défensive, en tout cas. Mais ce sont aussi ceux qui rejoindront rapidement, qui l'armée secrète, qui l'aura... une sorte d'autre armée de l'ombre, en quelque sorte. Moins héroïque que la première.
Ce mouvement de résistance se démarque du général de Gaulle ?
Oui. Comme le disait le colonel de la Roque, paraphrasant le célèbre révolutionnaire que vous savez, on n'emporte pas la patrie à la semelle de ses souliers. Il y a dans l'éthique militaire de certains comme un caractère un peu de désertion de la part du général de Gaulle. La lutte, c'est bien beau de lever l'épée de l'autre côté de la Manche, mais Pétain, ne l'oublions jamais dans l'esprit de ceci, c'est notre bouclier et c'est sur le sol français ou dans les colonies que s'opérera la reconquête, en quelque sorte. Donc c'est très clairement autre chose que la France libre, c'est assurément autre chose aussi que la résistance intérieure, même si c'est d'abord entre cette maréchale résistance et ses interlocuteurs, tel que je l'ai écrit, du côté de la résistance intérieure que s'opéreront les premiers contacts.
Cette résistance est aussi anglophone.
Elle est anglophobe, oui. Elle est
surtout chez les militaires.
Chez les militaires. Bon, vous savez, il y a deux catégories de Français qui n'aiment pas forcément les Anglais, et ce n'est pas le cas de tous les membres de chacune des catégories, sont les marins et les historiens. Donc les militaires, et puis vous savez, Marcel Kébir n'a pas été digéré par tous.
Quelques mots peut-être sur le général Weygand qui incarne parfaitement cette maréchale aux résistances.
Oui, il incarne même la relève dans l'esprit de beaucoup. Si Pétain était acculé à quitter le pouvoir, ou même si Pétain le conservait, le chef de guerre n'est pas sur les bords de la Tamise, il est à Alger, assurément, en tout cas en Afrique du Nord. Weygand, par ailleurs, est un militaire parfaitement auréolé d'un certain nombre de succès, y compris, comment dirais-je, sur le plan intellectuel durant l'entre-deux-guerres. Il incarne un peu la stratégie militaire française, bon, qui n'a pas forcément eu le succès voulu en 1939-40, mais il incarne cette autorité, peut-être plus que Weygand encore, et puis peut-être plus que Darlan encore. Il en va différemment, puisque Darlan, très rapidement, reprendra le dessus, et pour peu de temps, en Afrique du Nord. Mais c'est Giraud, très, très nettement, qui éclipsera la figure de Weygand, de même que c'est De Gaulle qui éclipsera celle de Giraud.
Alors, est-ce que...
C'est tellement vrai, si vous me permettez une toute petite allusion, que De Gaulle, voyant quand même qu'une résistance pétainiste pourrait prendre le dessus, ressent quasiment la nécessité d'aller voir ce qui se passe à Alger.
Cela nécessite au moins une émission à part.
Je ne suis pas spécialiste de résistance.
nous allons passer, si vous le voulez bien, Jérôme Cotillon, à l'après-guerre, l'après 44 en tous les cas, quel est le sort justement de ces maréchalos résistants? C'est ce que nous allons voir après une dernière pause. À tout de suite.
Vous écoutez Canal Académie. Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Je reçois Jérôme Cotillon, historien qui a reçu pour son livre « Ce qu'il reste de Vichy » un prix de l'Académie des sciences morales et politiques. Ce livre est paru aux éditions Armand Collin. Alors, nous évoquons ce néologisme de maréchalos résistance. Nous passons de l'année 42-43 à l'année 44, quand, au fond, la défaite de l'Allemagne se dessine peu à peu et quand commence l'épuration. Ce sont des maréchalistes, ce sont des résistants, et pourtant ils vont subir l'épuration.
Tous ne vont pas la subir. Je vous parlais tout à l'heure de Loustalot-Lacaux, se présentant certes devant la Haute Cour de justice, mais en qualité de témoin, pour faire une déposition ayant valeur de moralité. Donc certains n'ont pas été inquiétés du tout par l'épuration. L'épuration a été d'autant plus sévère que la rupture avec Vichy est tardive. Premier point, parce que, second point, Vichy, à mesure que le temps court vers 1944, est de plus en plus sévèrement jugé en termes de haute trahison. Nous ne sommes pas encore dans d'autres procès d'autres natures. Deuxième point, c'est aussi la nature et la qualité de la résistance qui est prise en compte. Je vous rappelle qu'il y avait des jurys d'honneur qui dispensait d'épuration à mesure qu'on pouvait présenter des preuves de résistance, de vertu résistante, si j'ose dire, qui dispensait ou non des exéates, comme ça. Bon, reste que cette maréchalo-résistance s'est quand même, à certains égards, retrouvée plus ou moins inquiétée par l'épuration. C'est vrai de ceux dont la résistance était, comment dirais-je, moins héroïque, moins maquisarde, peut-être plus quotidienne, mais on ne peut pas ne pas parler non plus de résistance, peut-être avec un petit R, diraient certains. Ceux-là, ayant bien des difficultés à démontrer avoir quitté leur poste tôt, et surtout bien des difficultés à avoir prouvé que occuper leur poste en tant que tel avait servi la cause de la résistance, ont été inquiétés par tout un arsenal juridique sur lequel je vais revenir. J'ajoute que personne n'a été inquiété par l'épuration dès lors qu'il avait rompu avec Vichy avant le retour de Laval. Donc vous voyez bien que 42
est une date butoir.
C'est vrai également, par parenthèse, d'une presse, la presse ayant continué de paraître après le mois d'avril 42 a été purement et simplement interdite. Ce n'est pas le cas de celle qui s'est sabordée avant. Donc voilà une vraie césure. Alors l'épuration, elle a touché la plupart des pans de la société. Plusieurs dizaines de milliers de dossiers d'épuration ont été jugés, ou devaient l'être. Elle a été d'ordre politique. Elle n'a rien à voir avec l'épuration sauvage, qui du reste frappe plutôt les collaborationnistes, les collabos, ou celui qu'on désigne comme tel, et qui, elle, a fait une dizaine de milliers de morts. L'épuration légale a été ambitieuse dans ses moyens, et voici une condition d'émergence, enfin de survivance de mes personnages néo-vichistes. L'épuration légale a été nettement plus mesurée. On ne compte que 767 exécutions. Ce qui est peu au regard de la personne théoriquement inquiétable. En second lieu, dans le temps, ces effets se font très vite moins marqués. Pour ceux, je vais vous donner quelques chiffres pour bien marquer les esprits. En 1945, vous avez 40 000 détenus pour raison de trahison ou de participation à Vichy. En 48, on n'est plus qu'à 13 000. Alors certes, la justice avance, mais on en élargit pas mal d'autres. En 51, on est à 4 000. En 52, on est à 1 500. 56 à 62. Et en 58, à 19. Donc vraiment, en moins de 10 ans, on peut dire que Vichy sort des geôles. Hein, malgré une épuration politique ici, qui aurait été sans doute la plus visible, mais la plus forte, et une épuration professionnelle beaucoup plus, sinon timorée, du moins nette et durable dans ses effets.
L'épuration la plus symbolique, c'est naturellement l'épuration littéraire.
L'épuration littéraire a été la plus visible, sans doute la plus sensible, comme on dit aujourd'hui aussi, parce que dans l'esprit des victimes ou des juges, le crime de plume est sans doute le plus indélébile. D'autre part, l'appel au meurtre, c'est vrai, lancé ici ou là par certains, n'a pas pu être gommé par une contrition ici ou une rétraction là. C'est aussi dans l'esprit de Gaulle, qui est d'une intransigeance qui contraste beaucoup, du reste, avec un certain nombre des membres de son entourage, dans l'esprit de Gaulle, le crime de parole ou le crime d'encre est sans doute l'arme la plus acérée pour faire couler le sang et pour incarner la trahison. Je n'ai pas besoin de revenir sur le cas Brasillac.
L'amnistie, dès lors, joue un rôle aussi de césure.
Alors, on est en présence de deux processus bien distincts. Il ne faut pas confondre épuration et amnistie. Et l'épuration, naturellement, se fait moins rude à mesure que des lois d'amnistie sont votées. Elles sont, il y en a de plusieurs sortes, mais enfin, au nombre de deux, celle de 51 et celle de 53, on l'a vu à travers les chiffres que je donnais tout à l'heure, va vraiment affranchir énormément d'anciens vichistes. Alors, 51 et 53, mais nous le verrons aussi par la capacité à se reconstruire du côté des néo-vichistes, est à mon sens la césure. Du reste, un journaliste néo-vichiste disait en 1945 qu'il fallait se défendre, en 1951 il s'agit désormais pour nous, chers amis, de passer à l'attaque. On voit bien que l'état d'esprit change. L'amnistie vient même moralement les conforter. Il ne faut pas confondre la grâce et l'amnistie, chacun le sait, mais dans l'idée qu'après tout, l'amnistie gomme leur faute aussi.
Donc se développe ce fameux néo-vichisme à ce moment-là.
Oui, en deux temps. Et la césure de 51, et, enfin, en tout cas l'inflexion de 51 est nette. D'abord par le truchement d'une timide reconstruction des milieux vichistes, qui vont devenir peu à peu néo-vichistes. C'est le temps, en gros, entre 45 et 50, de la reconstitution de sociabilité, de la reconstruction littéraire. C'est le temps de la rédaction de ses mémoires, souvent des plaidoyers pro domo. C'est encore pour certains le temps de l'exil. On a même pu parler d'une époque de Vichy sur l'aimant après 44-45 où on évoquait le bon vieux temps. Hein. Et puis on se demandait aussi comment on allait repasser la frontière dans l'autre sens, et de préférence par la grande porte ou s'il le fallait par la petite. Ça a été le cas de l'Espagne aussi, qui a plutôt accueilli les collaborationnistes du reste en Espagne. Le régime franquiste était peut-être un peu moins neutre que le régime suisse.
À vous lire, on est étonné par le nombre d'entreprises qui apparaissent ici ou là, visant à la réconciliation nationale, visant à la défense du maréchal Pétain. Quelle est cette diversité?
Alors, vous avez employé l'expression de réconciliation nationale. Elle est parfaitement opportune, parfaitement pertinente ici, puisque, en gros, la lassitude s'installant. Du reste, la Haute Cour de justice s'éteint d'elle-même sans gloire ni fanfare. Cesse ses propres travaux. La réconciliation nationale ne vient pas bizarrement et forcément des partisans déclarés du régime de Vichy, mais parfois d'une droite indépendante sur laquelle on jette une sorte d'opprobre qu'elle considère malvenue. Et cette droite dit maintenant il est temps de tourner la page. On a besoin de toutes les forces à droite pour tordre le cou un petit peu à la trigestion démocrate-chrétienne, socialiste et communiste. communiste. Et je prendrai pour exemple que qu'André Mutter, compagnon de la Libération, grand croix de la Résistance, qui fonde en novembre 1945 une revue qui fera long feu, Parole française, dont le tirage est assez impressionnant, hein, on dépasse assez régulièrement les 100 000 exemplaires, où il appelle très ouvertement un rapprochement entre ces néo-vichistes injustement mis à l'index, voire exilés, et une droite indépendante. Cela tranche naturellement avec la position du RPF, mais la droite indépendante va rapidement prendre le dessus, en tout cas en termes électoraux et en termes de poids politique, sur le RPF. Et c'est cette droite indépendante qui favorisera notamment les lois d'amnistie. Diversité d'entreprises, vous me disiez, du côté, donc, on le voit, d'une certaine droite indépendante, non nécessairement associable au régime de Vichy, mais également de ces milieux néo-vichistes qui, eux, vont fonder un certain nombre d'associations, de réseaux, peut-être même de clubs et de partis politiques, et vont adopter une démarche que nous pouvons parfaitement examiner.
C'est à cette époque que se développe la thèse du bouclier et de l'épée.
Oui, bien sûr.
Il y a la personnalité évidemment du colonel Rémy derrière cette thèse.
Autre résistant dans un premier temps gaulliste et figure. Alors voilà ce que j'appellerais d'un néo-vichisme de génération spontanée. C'est-à-dire que on devient néo-vichiste sans avoir été vichiste. C'est lié évidemment à une sorte d'entreprise de pardon moral, souvent associée à une certaine pensée chrétienne. C'est lié, alors pour illustrer ce propos, il faut se donner les arguments, et le colonel Rémy développe cette thèse qu'il impute à De Gaulle, du reste lequel se défend. C'est la thèse aussi des deux cordes à l'arc, qu'il y avait deux formes de résistance à l'Allemagne, l'une combattante, au sens quasi militaire du terme, celle de De Gaulle, et l'autre, dans un premier temps, censé limiter les dégâts, si j'ose dire, et résister dans la mesure du possible jusqu'à l'arrivée de combats de libération. Et cette thèse développée par le colonel Rémy, évidemment, est pain béni pour tous les milieux néo-vichistes qui s'en emparent allègrement, et vous avez un nombre incroyable d'associations parfois pas simplement confidentiel, réclamant au nom des droits de l'homme, je pense au Comité français de la défense des droits de l'homme, qui est en fait une structure paravichiste, à la défense des épurés, l'amnistie, à l'Union, enfin à l'Association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain, et tant d'autres, qui veulent concilier une réconciliation nationale à la défense de la mémoire du maréchal Pétain.
Tout se cristallise autour de la personne du maréchal Pétain.
Essentiellement. Parce que c'est sans doute la moins... D'abord, je vous rappelle que Darlan n'est plus dès 42, que Laval en 45 est fusillé, bien que subclaquant. Mais pour l'exemple, donc la personnalité la plus fédératrice des non-anciens vichistes et des anciens vichistes, c'est quand même, d'où mon expression de maréchal aux résistances aussi, la figure du maréchal Pétain. C'est le maréchal aulien, comme l'avait écrit Jean Tracou dans ses souvenirs. C'est véritablement ça, cette figure un peu du martyr, allant de station en station et n'en finissant pas de courir son calvaire.
Eh bien, Jérôme Cotillon, je vous remercie. Nous arrivons au terme de cette émission. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur du livre « Ce qu'il reste de Vichy », paru aux éditions Armand Collin, un livre qui a reçu un prix d'histoire de l'Académie des sciences morales et politiques. Jérôme Cotillon, merci à vous.
Merci.
Et je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine. Merci et à bientôt.
Vous écoutez Canal Académie.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de l'histoire. Leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Radio Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent, Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Radio-Canal Académie.